Chapitre 6. Le serment des enfants du soleil. Huascar se leva et, par les paroles sacrées, donna le signal de la cérémonie. Au commencement était Pacahuamac, le pur esprit qui régnait dans les ténèbres. Puis venait son fils, le soleil, puis sa fille, la lune, et Pacahuamac leur donna des armées qui sont les étoiles. Le soleil et la lune eurent des enfants. D'abord il y eut les Piruas, rois pontifes, puis les Amotas, pontifes rois, puis les Incas, rois des rois, délégués pour gouverner le genre humain. L'assemblée répétait les paroles de Huascar comme une litanie. Celle-ci terminée, des jeunes gens portèrent à Huascar un lama vivant. Huascar ordonna qu'on étendît la victime sur la dalle d'or de l'autel, et le gardien du temple, qui avait la garde des couteaux d'or, ouvrit les entrailles du lama sur lesquelles se pencha Huascar. Huascar, après les avoir interrogés, se leva et déclara au roi que les dieux étaient propices. Sur quoi le roi donna la parole au chef d'équipe Pucamayas, qui redressa en quelques versets les principaux épisodes terrestres de l'histoire des Incas. L'assemblée répondait par d'autres versets. Le chant était monotone et toujours sur le même rythme, et pendant qu'il chantait, le chef d'équipe Pucamayas égrenait les nœuds de ses kippos comme un chrétien égrène son chapelet. Quand il eut psalmodié le verset qui rappelait le martyre d'Atahualpa et l'invasion par l'étranger de la terre des ancêtres, un grand cri fut poussé par toute l'assistance, et le roi, sur son trône, au sommet de sa pyramide, leva la main qui tenait le sceptre et annonça à tous que l'épreuve envoyée à son peuple par les dieux allait prendre fin, qu'il avait été choisi par le soleil pour chasser l'étranger et qu'en gage de réconciliation avec son peuple, le soleil avait permis qu'on lui offrît la plus belle et la plus noble des vierges, descendantes directes de ceux qui avaient brûlé Atahualpa. Aux paroles de Viedo Runtu, tous les yeux se tournèrent vers Marie-Thérèse et les clameurs de mort l'entourèrent de nouveau. « Muera, muera la colla ! À mort la reine du roi mort !» Mais qui voulait-il tuer ? N'était-elle point déjà morte ? Raymond le crut fermement, car même ses cris atroces ne la firent point tressaillir, ne lui firent point ouvrir les yeux. Si elle n'était point morte, elle devait être privée de tout sentiment, et Raymond en remercia le ciel. Le roi avait repris son discours, et chacun maintenant l'écoutait avec satisfaction, affirmait que l'Empire allait retrouver son antique splendeur, ses mœurs publiques et privées, ses rites, qui depuis des siècles se cachaient dans la solitude des montagnes ou dans le sein de la terre, et ses plus belles cérémonies. Les vieillards pourraient mourir heureux qui avaient vu cette fête de l'Interaimi, comme on n'en avait point connu depuis la mort de l'Inca martyr. Les pères et mères devaient regarder avec orgueil leur progéniture promise au plus glorieux destin, et le cœur des vierges devait éclater d'espoir, car pour elles grandissaient en force et en courage et en beauté les libres enfants du soleil. Alors le roi se leva et dit « Qu'ils avancent, les enfants du soleil !» Et les jeunes gens s'avancèrent. Pendant 30 jours, ils avaient subi, comme autrefois, l'épreuve nécessaire. Ils avaient jeûné, ils avaient combattu, ils avaient montré leur force et leur adresse à la course, au pugilat et dans le maniement des armes, et ils avaient blessé et tué quelques-uns de leurs camarades. Ils avaient dormi sur la dure, ils avaient porté des vêtements grossiers et ils avaient marché pieds nus. Maintenant, ils s'avançaient dans leur robe blanche, la poitrine barrée d'une croix, comme les jeunes hommes du Moyen-Âge chrétien qui attendaient d'être faits chevaliers. Mais leurs pieds étaient encore nus. Ils entourèrent la pyramide d'or et Huascar, auquel deux vierges présentaient un bassin d'or rempli de plantes vertes, présenta les jeunes gens au roi. Il les nommait à mesure qu'ils défilaient devant lui et qu'ils tournaient autour de la pyramide, et ils déposaient dans leurs cheveux des feuilles d'une plante toujours verte pour indiquer que les vertus qu'ils avaient acquises doivent durer à jamais. Puis un à un, les jeunes gens montèrent vers le roi et s'agenouillèrent, et le roi, avec un poinçon d'or, leur faisait un large trou dans les oreilles. Ils redescendaient, leur robe blanche pleine de sang et désormais sacrée, et Huascar, puisant dans un autre bassin d'or présenté par deux autres vierges, leur accrochait aux oreilles de grands disques d'or. Rien dans leur physionomie ne trahissait la souffrance. Quand ils eurent tous l'anneau, ils se mirent en rang devant le roi, qui leur adressa encore une allocution. Il félicita les jeunes gens sur leur progrès dans tous les exercices militaires, et il leur rappela les obligations attachées à leur naissance et à leur rang. « Enfants du soleil, leur dit-il, je vous exhorte à imiter votre père, le roi des cieux, dans sa carrière glorieuse de bienfaits versés sur le genre humain. Et surtout, n'oubliez jamais que notre glorieux ancêtre, le roi Uyanakapak, a quitté les demeures enchantées du soleil pour recevoir votre serment. » Tous se tournèrent alors vers la momie du roi, élevèrent la main et prononcèrent le serment de bravoure et de fidélité à l'Inca. « C'est bien, dit le roi en se rasseyant, vous pouvez maintenant chausser la sandale. » Cette partie du cérémonial incombait au gardien des kippas, l'un des plus vénérables, qui attacha à chacun des candidats les sandales portées par l'ordre des Incas. « C'est bien, dit encore le roi, maintenant vous pouvez ceindre le ceinturon. » Et le gardien des kippas leur passa autour des reins le ceinturon auquel ils attacheraient pour le moment leurs armes de guerre. « C'est bien, dit pour la troisième fois le roi. Maintenant je vous certifie devant le roi mort et devant la Koya qui va mourir, de telle sorte qu'ils le répéteront aux ancêtres, que notre race est toujours la première des races du monde vivant, que vous en êtes les représentants sur cette terre, car vous êtes les purs enfants du ciel, sans aucun mélange terrestre, le frère ayant toujours bu le sang de sa sœur. » Et il donna le signal pour que le couteau d'or piqua la gorge des vierges. Celles-ci s'avancèrent à leur tour et gravirent les marches de l'autel, pendant que les pères et les frères entonnaient le chant du triomphe Aymara. « Oh, les sauvages, oh, les sauvages !» grondait Raymond, qui, depuis que cette idée lui était venue que Marie-Thérèse était déjà morte, ne songeait plus qu'à la vengeance. « Ah, les tuer tous, les faire souffrir, les engloutir tous dans une même catastrophe, et mourir moi-même sur leur ruine !» Mais que faire? S'il avait pu mettre le feu à ces murailles, à ce granit, à ces murs d'or, il n'aurait pas hésité, mais que faire? Il pouvait tout de même en tuer quelques-uns avec son revolver. S'il bondissait au milieu de ces fous, plus dangereux que le vieillard Orellana, il aurait tout de même son moment. Et il leur montrerait comment on expédie dans la lune les fils du soleil, et le grand prêtre Huascar, et le roi Runtu commis à la banque franco-belge. Oui, il pouvait toujours tuer ces deux-là, et puis se tuer après. Évidemment, évidemment, si Marie-Thérèse était morte. Mais était-elle morte, Marie-Thérèse? Justement, il lui sembla qu'elle avait remué, que sa tête avait eu un mouvement, que les joyaux d'or avaient glissé légèrement le long des joues et des épaules. Était-ce une illusion? Il le demanda à Orellana, qui lui répondit que sa fille était très fatiguée et qu'elle devait dormir. Pendant ce temps, le gardien du temple a l'horrible crâne déformé ou casquette-crâne, déformation qui lui donnait le goût du sang, piquait à la gorge les vierges et recueillait dans une coupe d'or le sang qui coulait de leurs blessures. Quand la coupe fut pleine, il y trempa ses lèvres et la donna ensuite à boire aux jeunes gens, parmi lesquels elle passa de main en main, pendant que les vierges en face d'eux, glorieuses de leurs blessures légères, criaient « Gloire aux enfants du soleil !» Quand la coupe fut vide, on le dit au roi qui, levant les bras au ciel, pria le soleil de donner lui-même le signal des sacrifices. La Coya millénaire sur son bûcher. Une odeur pareille à celle de l'encens, mais plus forte, plus exaltante, se répandit dans le temple. Les fumées des brûle-parfums se rejoignirent sous la voûte pour prendre leur essor par le trou circulaire qui découpait au-dessus de toutes les têtes un disque d'azur et qui bientôt le cacha. Aussitôt, les deux mamans connasses qui devaient mourir se levèrent et coururent au roi en protestant selon le rite. « Beau roi, lui dirent-elles, nous te supplions de faire cesser toutes les fumées de la terre. Comment veux-tu que le soleil donne le signal du sacrifice si elle nous cache son visage ?» Le roi fit signe, et les brûle-parfums furent éteints, et le disque d'azur rayonnant reparut. Alors on vit sur les trois bûchers les trois gardiens du temple, les trois petits gnomes à crâne déformé qui tenaient en leur main immobile un miroir de métal dont ils dirigeaient les rayons sur une petite quantité de coton déposée au centre de la plateforme de résine. Ainsi attiraient-ils, pour mettre le feu au bûcher, la bonne volonté du dieu. Sur cette plateforme, il n'y avait aucun poteau, rien à quoi on pût attacher les victimes, lesquelles devaient brûler à peu près volontairement. Mais le pire qui pouvait leur arriver était que le dieu ne voulut pas d'elles, et s'il n'en voulait pas, il n'avait qu'à se couvrir le visage d'un nuage, et le bûcher ne brûlait pas. Celle qui devait mourir n'avait plus qu'à vivre, mais à disparaître. Elle devenait la honte de la nation. Elle savait cela, celle qui, la face anxieuse, les yeux agrandis par l'espoir en la bonté du Dieu, attendait la première flamme. Autour d'elle, l'assemblée chantait et priait le Dieu qui leur fut propice, et les miroirs restaient toujours immobiles entre les mains des trois gardiens du temple. Si le bûcher destiné à la dépouille de la Coya, vieille de 1000 ans, dont la nouvelle Coya allait prendre la place dans le mur du temple, ne s'allumait pas, cela ne signifiait point que le dieu ne voulait pas de l'épouse nouvelle. Et celle-ci était toujours descendue vivante dans la tombe de l'ancienne. Cela signifiait que l'ancienne n'avait pas su plaire au dieu pendant les 1000 années de mariage solaire et que ses restes ne méritaient point l'honorable sépulture du feu. Alors on les jetait aux égouts de la montagne, domaine des vautours noirs. Or, ce jour-là, des trois bûchers, celui qui s'alluma le premier fut celui de l'antique, et aussitôt on alla la chercher. Elle était toute prête. Des chants retentirent en son honneur, et les prêtres firent tomber un voile de pourpre que Raymond n'avait pas remarqué dans le flamboiement de ce temple d'or et de porphyre. Le rideau, arraché, laissa voir dans la muraille un trou dans lequel pouvait tout juste se tenir une personne assise. C'était l'une des 100 tombes du temple de la mort, et dans ce trou, on apercevait la vague silhouette de la Coya millénaire, encore soutenue par des bandelettes. Ce n'était plus guère qu'un squelette, car enterrée vivante comme toutes les autres Coyas de ce temple, Elle n'avait eu, une fois morte, pour tout embaumement, que l'encerclement de ses bandelettes parfumées. Toutefois, la vertu de ce sol péruvien de conserver ses morts se manifestait une fois plus en montrant entre les bandelettes non point les os mais la peau du visage. C'est ce dont pouvaient se rendre compte les Curacas, les néophytes et les prêtres placés de ce côté du temple. Raymond ne voyait qu'une morte assise, et il ne pensait qu'à une chose, c'est qu'elle allait céder sa place à Marie-Thérèse, qui peut-être n'était point morte. Et une fois encore, sincèrement, il souhaita qu'elle le fût. Si elle ne l'était point, mais quelle devait être sa torture? Si elle pouvait penser encore derrière ses paupières closes, quelle devait être sa pensée? Peut-être en ce moment suprême, songeait-elle à lui qui avait été incapable de la reprendre à ses bourreaux. Peut-être à cette heure infernale où se déroulaient, pour son supplice, toutes les affreuses pratiques de l'antique superstition, songeait-elle à leur calme et bourgeois amour, qui était né si paisiblement dans leur cœur simple et si peu avide d'aventure. Quel destin que celui qui avait pris cette jeune fille, occupée uniquement des intérêts d'une entreprise commerciale, au sein de la moderne civilisation qui ne vit point de contes fantastiques, mais de bonnes et saines mathématiques, qu'il avait arrachée à une table bureau, entre un livre de caisse et une copilette pour la jeter en croupe de la chimère. Et celle-ci, monstre fabuleux qui franchit tous les espaces, lui avait fait remonter en quelques heures tout le chemin parcouru depuis des siècles par les hommes, et venait de la jeter sur le rivage barbare où brûlaient encore les bûchers de l'aurore du monde. Hélas, on bourrait donc encore comme Iphigénie, jeune belle en pleine santé, et déjà prête pour l'époux. Ah, comme elle tenait les paupières closes pour ne point voir l'affreux cauchemar, la chimère, la hideuse chimère, qui rôdait autour d'elle avec son odeur de soufre et tous ses parfums honteux, et sa tête de mamma conna. Mais encore une fois, tout simplement, peut-être était-elle morte. Elle avait dû mourir quand on lui avait enlevé le petit garçon ou quand elle avait entendu le cri de l'enfant supplicié dans la chapelle du grand Pahuamac. Les prêtres avaient retiré la vieille Coya de son trou et ils l'avaient portée dans sa chaise royale sur le bûcher. Cette Coya, qui allait brûler, avait conservé l'attitude que doivent avoir les Coya quand elles meurent, étouffées par l'absence d'air dans leur tombe, c'est-à-dire une attitude des plus dignes de reine assise sur son trône, et on obtenait cette attitude-là en faisant le trou de la tombe des Coya si étroit que, dans leur agonie, elles ne pouvaient que rester assises. Ainsi, celle-ci brûla-t-elle assise et si calme au milieu des flammes que les mamas connas, vouées au même supplice, l'envièrent. Raymond ne regardait plus les bûchers ni Marie-Thérèse, mais le trou dans lequel on allait mettre celle-ci. Il se disait que si elle était encore vivante et si on pouvait encore la sauver, il ne faudrait pas perdre de temps pour la sortir de là. Et sa main se crispait sur le manche de la pioche de Rellana, mais son autre main avait toujours le revolver et toujours une furieuse envie de tuer. Il aurait voulu aussi que Marie-Thérèse ouvrît les yeux si elle n'était point morte. Cependant, les deux autres bûchers ne s'allumaient toujours point, et les mamas connasses commençaient de gémir, car elles devaient mourir avant Marie-Thérèse, comme cela était écrit, pour aller lui préparer sa chambre dans les demeures enchantées du soleil. Et si le soleil n'allumait point les bûchers, elles n'arriveraient jamais à temps. Elles dressèrent vers l'astre des gorges haletantes, des mains suppliantes, et elles dirent : « Ô soleil, nous sommes des femmes. Donne-nous la force qui peut nous manquer. Salutaire rayon du soleil, soyez-nous propices. Roi du ciel, vois notre destinée, envoie-nous ta flamme et pitié de nous. Tous les cœurs reprirent après elle la litanie 10 fois. Envoie-nous ta flamme et pitié de nous. Mais le soleil n'envoya sa flamme que lorsque la fumée du premier bûcher se trouva peu après dissipée, ce qui n'attarda pas du reste, car les veilleurs du sacrifice activaient la combustion en versant sur le bûcher des parfums lourds d'alcool. Dès que les gardiens du temple furent descendus avec leurs lentilles et que la résine commença de pétiller, les deux mamans connasses, laissant tomber leur robe de fête, s'élancèrent sur leur bûcher comme des folles avec des cris d'allégresse, et elles attendaient d'être prises par la flamme avec des yeux d'extase tournés vers le ciel. Cependant qu'une musique infernale éclatait autour d'elles et qu'une exaltation sauvage gagnait toutes les autres mamas connasses qui dansaient autour des bûchers. Bientôt, la flamme enveloppa les deux malheureuses qui jetèrent un cri terrible. Et l'une d'elles se sauva. Reviens dans la flamme, reviens dans la flamme, lui crièrent ses compagnes en l'entourant. Mais l'autre hurlait de douleur et réclamait le couteau du sacrificateur. Alors le gardien du temple au crâne hideux, casquette crâne pour le goût du sang, lui enfonça son couteau d'or dans la gorge, et le sang jaillit sur les voiles noires des mamas connasses, lesquels reprirent leur danse et leur chant. Quant à la victime, elle était tombée à demi-morte entre les petits poings hideux des deux autres gardiens du temple, qui la repoussèrent sur son bûcher où elle disparut. L'autre mamacona avait subi le supplice, debout, n'ayant jeté que le premier cri terrible, et quand elle s'effondra dans la prodigieuse corolle écarlate que lui avait envoyé le dieu pour la transporter dans les demeures du soleil, des clameurs enthousiastes saluèrent ce triomphant martyr.